dans À Voix Nue à partir du 4 mars. France Culture Papier est disponible aussi sur abonnement, une coédition France Culture, une radio du groupe Radio France.
Fukuyama, il a annoncé la fin de l'histoire. Coincé dans un aéroport, les tours du World Trade Center tombent. Des journalistes le poursuivent.
La chute de Fukuyama, opéra vidéo de Grégoire Hetzel et de Camille de Toledo.
À vivre en première mondiale, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Jennifer Larmor, sous la direction de Daniel Harding.
Vendredi 29 mars à 20h, salle Pléiel.
Tous nos concerts au 01 56 45 16.
Et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
15h04 sur Inter, la suite de votre après-midi, c'est avec Daniel Mermet, la basse Jésus.
Oui, je pensais un petit peu au climat social dans ma région, comme ça, puis je me disais, mais c'est une belle chute quand même l'émission d'hier. Une pomme de terre dans le derche. C'est un peu ce qu'elle a la France en ce moment. Une pomme de terre dans le derche. Eh oui, on y est.
Oui, bonjour, eh bien merci pour votre émission d'aujourd'hui, j'ai bien ri, ça m'a amusé. Et puis j'ai pensé que peut-être ce monsieur Max pourrait convoquer monsieur Arnaud Montebourg, qui pourrait mettre sa marinière et une poupée avec une marinière, et puis présenter le produit à toute la France comme produit français, c'est pas mal. Voilà, merci beaucoup pour la qualité de vos émissions. Au revoir.
J'ai une de mes amies qui approche la cinquantaine, qui l'a même dépassée, qui a eu de nombreuses expériences dans sa vie, qui a eu plusieurs compagnons successifs, des aventures. Et elle me disait que de chacun des hommes qu'elle avait croisés, elle se souvenait d'un détail, d'une anecdote, d'une date d'anniversaire. Et elle me dit, je suis persuadée que pour certains, ils ne se souviennent même pas de mon prénom. Et que pour eux, j'étais presque comme une poupée gonflable. J'ai pas beaucoup de respect pour les hommes en général. Et ces poupées gonflables, elles sont épouvantables. Les seules fois où on les aperçoit, des fois sur des catalogues, je me demande bien d'ailleurs où c'est que j'en ai vu, avec leur bouche ouverte en permanence, je trouve ça d'une laideur, d'une... On dit misère sexuelle, oui, je crois que c'est ça, misère sexuelle. Alors, est-ce que c'est de la morale? Eh bien, j'en sais rien. Je crois que c'est un peu une sorte de féminisme, quelque part. Mais sauver l'économie française en faisant des poupées gonflables, eh bien, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Que peut-on attendre d'un peuple qui place dans ses préférences féminines Christine Lagarde et Marine Le Pen en tête. C'était Michel de Lyon.
Oui Daniel, je viens de lire la Marseillaise là il y a une petite demi-heure et je viens de lire en première page que Fralib a gagné au tribunal de Aix-en-Provence et ils ont annulé le plan de licenciement d'Unilever. Donc je ne fais pas partie de Fralib, je suis un militant, j'essaye de... Voilà, de m'engager et ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Donc voilà quoi, Fralib a gagné son procès et ça fait plaisir.
Ouais, salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux, là, le petit jardinier sympa là. Ouais, je t'appelle, là, j'ai vu que Le Pen était la deuxième femme politique préférée des Français. Donc ça craint quand même, hein, ça craint quand même. Bon, c'est vrai que la gauche, le Parti Socialiste mène une sale politique hein, depuis déjà 7-8 mois. Qu'on en prend plein la tête quand même. Demain, on va aller manifester quand même, hein, parce que ce qu'ils vont faire, c'est quand même dégueulasse pour les travailleurs. Tout ça, moi, ça m'interpelle parce que Le Pen, il est monté avec le Parti Socialiste hein, en 83-84, là, puis 88, les présidentielles, où il avait fait un super score. En 2002, on se l'est retapé parce que la gauche, elle avait encore discrédité, donc ça faisait déjà deux fois. Ça va faire la troisième fois. Les années qui vont venir vont être dures pour nous. Alors moi, tu sais, en 2007, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir... J'avais décidé de faire un rang de plus de patates, mais cette année, avec Hollande, je vais en faire deux. Hein. Et je suis de gauche, voilà. Allez, salut.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Nous voilà de retour. On était en Andalousie, on était à Séville. On vous en parlera dans les jours prochains. On vous fera découvrir, si vous ne l'avez pas déjà découvert, les coralas, les corallas, c'est-à-dire ces maisons ou ces immeubles qui sont occupés depuis quelques mois par des familles qui se réunissent et qui occupent des immeubles ou des maisons vides le plus souvent depuis fort longtemps. La crise, comme on dit, tape très très fort, vous le savez bien, en Espagne, 3 millions d'Espagnols à la rue, 450 000 expulsions, de plus de 200 000 ont été exécutés, d'autres sont en cours d'exécution, des régions avec 50% de chômage. Dans une petite ville où nous sommes rendus, en Andalousie, 77% de chômage. Enfin, l'Espagne s'enfonce et on essaiera de vous raconter les résistances à cette détresse et à ce chaos. Et puis, on ira faire un tour dans les quartiers de Séville, les quartiers gitans, les ghettos gitans de Séville. Et c'est pas triste du tout. On ira vraiment là où bat toujours aujourd'hui le cœur du flamenco, si populaire à Séville et si populaire en Andalousie. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel avec le monde diplomatique. Comme chaque mois, vous le savez, on se retrouve avec le mensuel, le monde diplo. Aujourd'hui, on est avec Serge Halimi, qui parlera de la Tunisie, avec Jean-Pierre Serini, qui évoquera l'Irak. C'est le 10e anniversaire, vous le savez, du déclenchement de cette guerre, qui était une guerre évidemment humanitaire. Il n'était pas question du pétrole. Comment pouviez-vous penser à des intentions comme celle-là? On verra ce qu'en dit Jean-Pierre Serini. Sabine Sessou va nous parler de l'Afrique du Sud, la violence en Afrique du Sud. Maurice Lemoine nous parlera du pape. Oui, c'est son truc, le pape, vu d'Amérique latine. Le pape et l'Amérique latine, Benoît XVI, l'Amérique latine va-t-elle regretter ce pape? Maurice nous dira son point de vue. Et puis avec Simon Cooper, on parlera de foot et des statistiques dans le foot. Comment évaluer les joueurs avec des statistiques très compliquées et très savantes. Vous verrez que c'est pas triste du tout. Voilà, auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
En Limousin aussi, on s'indigne, en particulier lorsqu'une entreprise de Saint-Julien en Haute-Vienne, Kofpa Albani, qui appartient à un grand groupe international, Albani International, qui dégage des bénéfices conséquents, n'a aucun scrupule pour annoncer 75 licenciements, soit près de 60% du personnel. La fermeture totale du site qui a bénéficié d'aide publique pour s'installer avait été annoncée en février 2011, mais la forte mobilisation des salariés, des élus locaux, de la population l'avait mise en échec. Aujourd'hui, Albani International revient à la charge en décidant des suppressions d'emplois, alors que le site est toujours rentable. Alors, AMG du Limousin, venez soutenir cette lutte, emblème régional des licenciements boursiers, et rencontrer Jean-Paul Lebouté, Didier Roy, salarié de Kofpa Albani, au repère des Amis de la Bassigissui de Limoges, mercredi 6 mars à 18h30 au bar Les Folies, place des Jacobins.
Vous avez fait une rediff, je vais tenter d'en faire une. Le mépris. Donne-moi du plaisir, dit la femme à l'anguille, à l'objet du désir d'un ton plein de mépris. Et quand de ton devoir tu seras libéré, tu pourras pour un soir t'endormir à mes pieds. De votre cul qui baille, je ne suis ni le boy, ni le brave cobaye, répondit le sextoy. Salut.
Oui, bonjour Daniel, c'est Patrice de Montreuil-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ça fait plus de 40 jours que les salariés du cinéma Méliès de Montreuil sont en grève. Le cinéma Méliès, c'est le plus grand cinéma art et essai de France, le plus réputé de l'Est parisien pour sa programmation et la qualité de ses débats. Plusieurs personnels ont été sanctionnés, dont le directeur artistique qui a été licencié. Une équipe unie depuis 40 jours avec le soutien des réalisateurs et des spectateurs. Il faudrait que ton équipe vienne à Montreuil, Daniel, car c'est un combat exemplaire et c'est curieusement Madame Voinet et sa politique culturelle qui sont mises en cause. Pour plus d'infos et la solidarité financière avec les personnels en grève, voir le site Soutien aux Méliès. À bientôt et tous dans les manifs demain mardi. Salut.
C'est ta merde. C'est un répondeur à la con. Plein de gens plein de... en train de rigoler. C'est pas compliqué là. Ils ont des focus là. Surfer dans la gente, ils ont baisé paraît-il. Donc mais j'ai les mecs là, j'ai la merde.
« Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Le Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, on est avec Le Monde Diplomatique de ce mois de mars et on ne peut pas commencer sans évoquer la mort d'un personnage très important qui s'appelait Jean Raguenès. Et Jean Raguenès, qu'on voit dans le film sur Lippe, était un prêtre ouvrier, 68ard, un des acteurs de l'histoire de Lippe, et qui est mort donc le 1er février dernier à San Paolo, à l'âge de 80 ans. Et il était, un théologien de la libération, mon cher Maurice Lemoine. Je ne vous apprends rien, j'en suis sûr. Et c'est une façon d'évoquer le papier que vous avez donné au diplôme de ce mois-ci. Vous êtes très triste, on voit bien que vous êtes très pénétré par une nouvelle tout aussi terrible que celle que je viens d'annoncer, c'est la démission du missionnaire Benoît XVI. Et vous voyez cet événement à travers un continent que vous connaissez un peu, qui est l'Amérique latine. Et vous essayez de nous dire un peu ce qu'a représenté le cardinal Ratzinger pour l'Amérique latine.
Oui, parce qu'avant de s'appeler Benoît XVI, le pape, ou l'ex-pape, s'appelait cardinal Joseph Ratzinger. Et en Amérique latine, il n'a pas laissé que des bons souvenirs. On ne va pas refaire toute l'histoire de l'Amérique latine et toute l'histoire de la théologie de la libération. Mais elle naît, en gros, dans cette partie du monde dans les années 60, du fait de la situation sociale latino-américaine et du fait que un certain nombre de membres, aussi bien laïcs que de la hiérarchie catholique, s'indignent de la situation et, d'une certaine manière, prennent parti pour ce qu'on n'appelait pas à l'époque le mouvement social, mais qui est la gauche latino-américaine, les pauvres, les défavorisés. Et tout ça va se dérouler sous le pontificat de Jean XXIII, on s'en souvient, avec le Concile Vatican II, 62-65, avec l'encyclique Popularum Gratio, et avec effectivement le développement d'une église de gauche, on va dire, tout simplement, qu'on pourrait symboliser par cette fameuse déclaration que tout le monde connaît par cœur, de Don Helder Camara au Brésil. « Lorsque j'aide les pauvres, on dit de moi que je suis un saint. Lorsque j'explique pourquoi elles sont pauvres, on m'accuse de communisme. » On a donc le développement de ce courant qui est une transformation de l'Église en Amérique latine parce qu'elle a toujours été, rappelons-le, très conservatrice. Elle est arrivée dans les fourgons des conquistadores, des Espagnols. Et elle n'a jamais été très portée sur le social. Et donc là, on a une transformation. Et puis, évidemment, on va changer d'époque en 1978, à la mort de Paul VI, lorsqu'arrive à Rome un Polonais, Karol Wojtyla, qui vient d'un pays communiste.
Ce qu'il n'est pas.
Ce qu'il n'est pas tout à fait, et qui a une vision du monde, évidemment complètement liée à son histoire, lui, qui a été de la lutte contre le communisme, et qui donc, arrivant face à l'Amérique latine, ce continent où l'Église est divisée, puisqu'il reste quand même des secteurs conservateurs, va pas du tout comprendre de ce qui se passe là-bas. En tout cas, c'est l'interprétation que nous en avons, et que la théologie de la libération en a. En 1981, Jean-Paul II va faire entrer à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Alors la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est l'ancienne Inquisition. Un cardinal qu'il a connu lors du Concile Vatican II, Joseph Ratzinger, avec qui il a établi des relations personnelles. Et en fait, en faisant rentrer Ratzinger à la curie romaine, il fait rentrer le Ratzinger dans la bergerie. Parce que Ratzinger est un hyper-conservateur. Un petit exemple, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est l'organisme qui a fait passer le décret en 1949 décidant qu'on allait excommunier tous les gens qui diffusent la doctrine communiste. En vertu duquel, d'ailleurs, Fidel Castro a été excommunié en 1962, lorsqu'il s'est déclaré communiste. Donc voilà l'organisme en question. Et à partir de là, on va avoir quasiment une... rappelez-vous, on est dans les années 80... L'Amérique centrale, entre autres, est en effervescence. Les pays d'Amérique du Sud sont sous dictature, quasiment tous. On est encore avec Pinochet, on est encore avec toute cette mafia, j'allais dire, cette mafia militaire. Et c'est un duo, en fait. Wojtyla-Ratzinger, Jean-Paul II Ratzinger, vont faire entrer l'Église dans la guerre froide. Et en particulier, à l'époque, avec un acharnement sur le Nicaragua. Le Nicaragua 79 vient de renverser la dictature de Somoza, le gouvernement sandiniste avec cinq prêtres. dans les rangs du gouvernement. Et l'objectif principal, ça va être de faire du Nicaragua une Pologne latino-américaine. Et donc Ratzinger et Jean-Paul II vont se déchaîner contre le Nicaragua. On a en mémoire la visite de Jean-Paul II au Nicaragua en 83. On est à l'époque en pleine offensive de la Contra, les contre-révolutionnaires, qui assassinent des enseignants, qui assassinent des coopérants, qui assassinent les gens des postes de santé. Et sur la grande place de la Révolution à Managua, le pape, devant des mères de soldats sandinistes qui viennent d'être tués la semaine précédente et qui demandent une prière pour nos enfants, se refuse à prier pour les enfants sandinistes morts au combat et prie pour les prisonniers politiques qui, en l'occurrence, sont les somosistes. Donc voilà le contexte. Et Ratzinger ne va avoir de cesse que de démanteler l'Église latino-américaine. Alors il va s'en prendre en particulier aux principaux théologiens, je pense à Léonard de Boff, je pense au père Gustavo Gutiérrez, qui vont se voir réduits au silence. On est réellement dans l'Inquisition. Léonard de Boff se voit mis à l'index, il doit réviser son œuvre, un petit peu comme on l'avait fait avec Galilée. Et cette guerre froide va durer pendant tout le pontificat de Jean-Paul II, y compris ensuite avec l'arrivée à Rome de Benoît XVI. Alors on pourrait dire que tout ça c'est de l'histoire. Mais en réalité, bien sûr, ça a eu des conséquences. Quelles ont été les conséquences? C'est que pendant toute cette période, évidemment, l'Église officielle, parce qu'il reste toujours, y compris aujourd'hui encore, il reste des prêtres, des religieux, des religieuses qui sont attachés à la théologie de la libération et qui sont auprès des plus démunis, des plus pauvres. Le choix prioritaire des pauvres, c'est le cœur de cette action. Mais pendant toute cette période, la hiérarchie catholique a appuyé, ou en tout cas a conforté, et les dictatures militaires, et le modèle néolibéral, et les gouvernements en place. Je rappelle, parce que c'est un chiffre qu'on oublie souvent, y compris quand on parle des gouvernements de gauche latino-américains aujourd'hui, qu'en 1980, en Amérique latine, il y avait 120 millions de pauvres, et qu'à la fin des années 90, il y en avait 225 millions. C'est-à-dire qu'on a doublé la pauvreté pendant toute cette période. La deuxième conséquence de toute cette période de Ratzinger, du Panzer cardinal, c'est que, bien sûr, la hiérarchie catholique en Amérique latine est complètement tenue par les conservateurs. Et évidemment, ça a une incidence sur la vie politique actuelle, puisqu'on voit que dans des pays comme le Venezuela de Chavez, l'Équateur de Rafael Correa, la Bolivie d'Evo Morales, la hiérarchie catholique est délibérément avec l'opposition pour tenter de mettre le plus de pièges possible dans la gestion de gauche de ces gouvernements. Je rappelle qu'au Venezuela, l'évêque Baltasar Porras, le jour du coup d'État en avril 2002, était avec le patron des patrons pour destituer l'Assemblée nationale. Troisième conséquence, c'est que l'Église catholique a perdu de l'influence en Amérique latine. Puisqu'une partie des fidèles s'est découragée, un certain nombre des...
Ça s'est fait au profit des évangéliques américains, nord-américains.
Tout ça s'est fait au profit des évangéliques américains. On se rappelle du rapport Rockefeller de 1969 qui indiquait au gouvernement des États-Unis que l'Église catholique représentait un danger. Et donc tout ça s'est fait pour les États-Unis. Donc voilà en gros l'image qu'a laissé Benoît XVI en Amérique latine, de sorte que là-bas... Ça...
Et le rôle éminemment politique du Vatican, on l'oublie un peu souvent.
Et le rôle éminemment politique du Vatican, de sorte qu'en Amérique latine, et quand il a été élu, je me souviens d'une déclaration de Leonardo Boff, qui n'était pas franchement enthousiaste, et au moment de son départ, ma foi, il n'y a pas un sentiment général de tristesse et de peine par rapport à ce pape qui nous quitte.
Andola Villa Morena, c'était ce samedi 2 mars à travers tout le Portugal, dans 40 villes, une énorme manif, une énorme marée humaine contre l'austérité, contre la Troïka, Union européenne, FMI, Banque centrale européenne, contre l'austérité imposée par cette Troïka, qui entraîne la destruction de toute la protection sociale, de la santé, de l'éducation, de tout le secteur public. Et ce chant que vous entendez, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, était le chant de la Révolution portugaise de 1974, hymne de la Révolution contre la dictature militaire à l'époque et aujourd'hui contre la dictature des banques.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Alors on continue avec le diplôme du mois de mars. On vient de parler du rôle de l'Église catholique en Amérique latine. Là, on va s'intéresser au rôle de quoi donc ? On va pas dire de l'islam quand même, on va dire de l'islamisme, on va être très précis, en Tunisie cette fois-ci, où Serge Halimi s'est rendu et donne un texte assez long sur l'évolution d'Ennahda, du Parti de la Renaissance, en Tunisie, qui avait été élu, on s'en souvient, en octobre 2011, avec une majorité pas suffisante pour être seul au gouvernement, mais qui avait été élu à l'époque. Et deux ans après, eh bien, le bilan de ce parti au pouvoir est assez mitigé, selon Serge Halimi.
Oui, la difficulté, c'est déjà d'employer le terme d'islamisme ou d'islamiste, qui est maintenant une expression qui balaie quand même très large, qui va de l'AKP turc à Al-Qaïda. Donc quand on emploie cette expression, on provoque toutes sortes d'inquiétudes qui, dans certains cas, sont justifiées et dans d'autres ne le sont pas. Il me semble que ce qui s'est passé en Tunisie et peut-être un peu ce qui s'est passé en Égypte, c'est un déroulement en trois étapes. La première étape, c'est la chute de dictature pour des raisons politiques, bien sûr, l'absence de liberté publique, l'autocratie, le népotisme, mais aussi et principalement pour des raisons économiques et sociales. Les inégalités, le chômage des jeunes, l'absence de mobilité sociale, le développement très inégal entre les régions. Donc première étape, les dictatures tombent. Deuxième étape, les remplacent des régimes islamistes qui arrivent au pouvoir démocratiquement, qui remportent les élections assez largement, parce que les islamistes sont auréolés de la répression qu'ils ont subie. Ils ont été la cible principale de la dictature, ils ont connu l'exil, l'incarcération, les tortures. Ils ne sont pas corrompus, mais ils arrivent au pouvoir pour résoudre des problèmes qui sont principalement économiques et sociaux, alors qu'ils n'ont pas de projet économique et social de rechange, que ce sont pour l'essentiel des partis libéraux, qu'il s'agisse de la Turquie, de la Tunisie ou de l'Égypte. On a appris hier que l'Égypte s'apprêtait à souscrire aux conditions d'un prêt du FMI. On sait à peu près ce que ça veut dire dans un pays du Sud quand un gouvernement se prépare à passer sous les fourches caudines du FMI. Donc deuxième étape, ces partis arrivent au pouvoir pour résoudre un certain nombre de problèmes économiques et sociaux sans avoir de projet de rechange, si ce n'est de poursuivre grosso modo la politique de Ben Ali. Mais on pourrait dire ça aussi de la plupart des pseudo-laïcs tunisiens, qui sont assez largement aussi des libéraux. Donc la troisième étape, on y est, c'est l'essoufflement des islamistes au pouvoir. Le mécontentement économique et social persiste. Les islamistes et leurs adversaires, d'une certaine manière, se polarisent alors sur la question identitaire et religieuse pour maquiller leur absence de réponse aux questions, aux problèmes économiques et sociaux. Et il me semble que cette troisième étape, c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui, en tout cas dans le cas de la Tunisie. 18 mois après l'élection de l'Assemblée constituante n'a pas accouché d'une constitution. Quand on élit une Assemblée constituante, c'est en général pour qu'elle écrive une constitution. Ça s'est fait assez vite dans le cas de la France à la Libération. Il y a eu deux constitutions qui ont été écrites en 3 mois. Bon, là, on est 18 mois plus tard, il n'y a toujours pas de constitution.
Ni d'élection, parce que les élections étaient promises pour les mois à venir.
Mais il ne peut pas y avoir d'élection tant qu'il n'y a pas de constitution qui donne en quelque sorte la manière de procéder aux élections. Tout ça n'est pas réglé. Donc tant qu'il n'y a pas de constitution, il ne peut pas y avoir d'élection. Au plan économique, les investissements sont en panne. À vrai dire, les islamistes, s'ils avaient un projet, c'était essentiellement de remplacer les investissements des pays occidentaux ou d'essayer de les remplacer par des investissements des pays du Golfe. Et ils comptaient beaucoup sur le Qatar. Or,
tout le monde compte sur le Qatar.
Compte sur le Qatar.
Nous aussi, ici, mais on attend le Qatar. Ici.
Mais dans le cas des Tunisiens, on peut dire que la manne du Qatar n'est pas venue. Par ailleurs, le tourisme et les phosphates, qui sont les deux poumons économiques de la Tunisie, battent de l'aile. Évidemment, plus on relate qu'en Tunisie, ça va pas, plus les touristes occidentaux en particulier, qui sont d'un naturel assez peureux, décident d'aller ailleurs. Même chose, si on peut dire, pour les phosphates. Là, c'est qu'il y a des grèves qui se déroulent en permanence dans la région et qui sont souvent pas tellement le fait des ouvriers qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions salariales, mais le fait des chômeurs qui aimeraient être embauchés par les entreprises de phosphates. Et évidemment, tant qu'il n'y a pas de développement régional, eh bien, les chômeurs, ils cherchent un moyen d'avoir une existence.
Et puis, il y a les entreprises françaises, les 1200 entreprises françaises qui s'entendaient très, très bien avec le pouvoir précédent, celui de Ben Ali, et qui, là, commencent à partir et se sont beaucoup moins vaillantes en Tunisie.
Oui, en partie parce que les entreprises, elles, sont très soucieuses d'ordre, beaucoup plus d'ordre que de démocratie. Or, l'ordre public est menacé en Tunisie et il est menacé aussi par des milices plus ou moins proches du pouvoir, qu'on appelle les Ligues de défense de la Révolution, les LDR, qu'on soupçonne d'avoir été impliqués dans l'attentat du militant de gauche Chokri Belaïd, qui a provoqué une énorme indignation, une énorme mobilisation des anti-islamistes en Tunisie. Donc, si vous voulez, on a cette troisième étape que j'évoquais tout à l'heure, l'échec d'Ennahda, à la fois au plan sécuritaire, au plan économique, au plan constitutionnel, puisque la Constitution n'est pas votée à l'heure actuelle. Donc avec le temps, on a le sentiment qu'une forme de polarisation politique s'est accentuée en Tunisie. Il faut voir qu'en 2011, quand le pouvoir de Ben Ali est renversé, il existe une certaine connivence entre les forces, entre guillemets, laïques, et les forces islamistes, entre le centre droit et parfois l'extrême gauche, parce que les uns et les autres ont subi les affres de la dictature. Et ils ont tous été, sous des formes diverses, victimes de la répression benaliste. Vous le savez très bien vous-même, ce sont parfois des avocats ou des avocates d'extrême gauche qui ont défendu des militants salafistes.
Chokri Belaïd, comme avocat, avait défendu des militants d'Ennahda à l'époque.
Et là, on a le sentiment qu'au contraire, il y a une sorte de front commun qui s'est constitué entre tous les opposants à la coalition au pouvoir et qui réclame un certain nombre de demandes qui lui paraissent décisives. La première, c'est la dissolution des Ligues de défense de la Révolution. Et la deuxième, c'est que Ennahda ne contrôle aucun des ministères qu'on dit régaliens, c'est-à-dire essentiellement l'intérieur et la justice, parce que ces forces politiques qui sont opposées donc au pouvoir estiment qu'on ne peut pas organiser d'élections honnêtes si le ministère de l'intérieur est contrôlé par un militant du parti au pouvoir. Et en somme, on a le sentiment que l'échiquier politique se recompose en Tunisie de la manière suivante, en passant, si vous voulez, de la gauche à la droite. Vous avez l'extrême gauche et la gauche, qui avaient été laminées lors des élections d'octobre 2011, au point que les islamistes les qualifient de partis de 0,
mais ils avaient présenté Dino
Raboli. Ils avaient présenté, il y avait des centaines de listes, alors que les islamistes, eux, avaient fait front, d'où leurs bons résultats. Donc là, il y a une recomposition de la gauche et de l'extrême gauche autour du Front populaire, dont Chokri Belaïd était l'un des porte-paroles. Ensuite, vous avez, c'est pas une force politique, mais c'est une force qui, comme vous le savez bien, joue un rôle majeur en Tunisie, l'UGTT, la Confédération syndicale, qui est maintenant de plus en plus en lutte contre le pouvoir islamiste. Après tout, si vous voulez, les ligues de la défense de la Révolution ont eu la bonne idée d'attaquer le siège de l'UGTT à Tunis et le font ailleurs. Donc il y a ce sentiment que les islamistes, en quelque sorte, combattent les syndicats, et les syndicats l'éprouvent assez durement. Donc vous avez la gauche, l'extrême gauche, vous avez l'UGTT, vous avez le centre droit et la droite, qui accueillent maintenant de plus en plus, alors là on y est, des anciens partisans de Ben Ali, voire un ancien ministre de Ben Ali, Morjane. Et puis, vous avez Ennahda, qui représente, si vous voulez, une espèce de droite religieuse, parce qu'il n'y a vraiment rien de gauche dans le programme d'Ennahda, ni au plan économique, ni évidemment au plan de la société, de la religion. Et à droite d'Ennahda, vous avez les salafistes. Sans même parler des groupes islamistes plus radicaux, il faut rappeler qu'il y a apparemment plusieurs centaines de salafistes tunisiens qui combattent en Syrie, et qu'il y en avait une douzaine parmi les attaquants de la centrale gazière en Algérie le mois dernier. Donc Ennahda est dans une situation assez difficile parce qu'il aimerait intégrer ses salafistes dans le jeu politique afin qu'ils ne basculent pas de la prédication pacifique à la violence armée.
C'est-à-dire au djihad armé, la Tunisie n'étant pas considérée pour l'instant comme une terre de djihad armé.
Mais une terre de prédication. Mais naturellement, pour intégrer ces salafistes, voire une partie de ces djihadistes, il faut leur apporter un certain nombre de contreparties. C'est-à-dire aller dans le sens que redoutent les laïcs d'une ré-islamisation de la société tunisienne. Donc on voit un peu quelle est cette situation générale politique de la Tunisie. Alors maintenant, comme on était parti des questions économiques et sociales, il faut en revenir aux dossiers économiques et sociaux. Quelles sont les propositions qu'on entend pour sortir de la nasse? La gauche en fait un certain nombre. Le Front populaire, notamment, réclame une suspension du paiement de la dette extérieure pendant 3 à 4 ans, de manière...
Une dette qui a été contractée par Ben Ali, qui détournait les fonds de l'État d'un côté, et d'autre part, endettait le pays jusqu'à la moelle.
Voilà, absolument. Donc, il y a cette idée qu'une partie de la dette est une dette, comme on dit souvent, odieuse, que la Tunisie devrait ne pas la rembourser, et qu'en tout cas, si ce paiement de la dette est suspendu pendant 3 ou 4 ans, les sommes ainsi dégagées pourrait être consacré à la création d'emplois. Et l'un des porte-paroles donc de la gauche me disait, je le cite, « Si vraiment la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les États-Unis, les pays du Golfe ont de la sympathie pour la Tunisie, eh bien qu'ils suspendent le paiement de la dette. » Et on a beaucoup de discours ici d'inquiétude relative aux salafistes, aux islamistes et à ce qui peut se passer en Tunisie. Mais plutôt que de s'alarmer en permanence, faisons quelque chose et accédons à la demande des Tunisiens. Je le disais tout à l'heure, il faut tout de même se souvenir que le régime de Ben Ali a été porté à bout de bras par le Fonds monétaire international, que le Fonds monétaire international avait porté, je cite, un jugement très positif sur la Tunisie de Ben Ali, que Dominique Strauss-Kahn, à l'époque directeur général du Fonds monétaire international, avait été décoré par Ben Ali, et qu'à l'occasion de la remise de sa décoration, il avait dit
« L'économie tunisienne va bien, malgré la crise ». La politique économique qui est conduite est saine et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays qui sont des pays émergents.
Et ça, c'était en 2008, donc c'est pas il y a 50 ans, du temps de Mathusalem. Donc le Fonds monétaire international a joué un rôle assez négatif en Tunisie et il faudrait que ça cesse. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on constate en Tunisie comme en Égypte, c'est que les demandes du Fonds monétaire international sont assez largement écoutées par les islamistes au pouvoir. Par exemple, dans le cas de la Tunisie, il faut savoir qu'il y a l'une des cibles potentielles, en tout cas du FMI, serait une caisse générale de compensation. Il existe une caisse générale de compensation en Tunisie qui stabilise les prix des produits de base et qui joue un rôle très important parce que les produits de base, la semoule, le pain, etc., sont très largement subventionnés. Cette caisse de compensation dépense beaucoup d'argent. À l'heure actuelle, c'est 15,7% du budget du pays qui sont en quelque sorte affectés à cette stabilisation des produits de base. Donc s'il faut faire des économies là-dedans, ça veut dire que les prix des denrées essentielles ne seront plus subventionnés, vont augmenter, qu'il peut y avoir des émeutes de la faim. Donc on perçoit bien que le nœud du problème en Tunisie est économique et social et que les remèdes que suggèrent les pays occidentaux et sans doute le Fonds monétaire international n'auraient pour effet que d'aggraver les difficultés du pays.
حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 كيفين باي بيليك من لامبادوزا صغرت ودعي للرحمن روح بالباكو واللامبرجيني حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 من غمض عيني كما تصافيني جيبلك في عرسك بين دير ما لو كرينا جنة بعينينا حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 لو كان غرقنا متنا بلاد فينا روحي ترجع لك حومان ما كنتش ناوي نعطيها قلبها حبيبة تاو حبيبة تاو حبيبة تاو 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 كرموش الغلبة والعيشة الكلبة سكروا في وجهي البيبان راني مخنوق بالبود الليس حبيبة تاو حبيبة تاو حبيبة تاو 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 الروح في صندوق يا إم عريس نرجع لبلاد البولي
à la mitraillette. Quasiment à bout portant et à balles réelles.
France 2.
La caméra présente n'y change rien. Les policiers, blancs et noirs, vident leurs chargeurs sur les manifestants.
Le 17 août 2012.
Dernier bilan connu, 34 morts, 78 blessés. Un massacre qui ce matin horrifie et scandalise tout un pays. Comment l'Afrique du Sud, le pays qui a vaincu l'apartheid, peut-il tuer ses propres citoyens en grève ? Du jamais vu, depuis l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, il y a 18 ans.
On continue avec le diplôme du mois de mars, et cette fois-ci avec Sabine Sessou, qui est journaliste, tout simplement. On s'intéresse à ce qui se passe donc en Afrique du Sud. On pensait que ça se calmait, qu'il y avait des opérations de pacification, de paix, de vérité, etc. Et là, vous avez un titre assez violent. 3 émeutes par jour en Afrique du Sud. Vous nous rappelez que le président Jacob Zuma a été réélu, mais que la situation est loin d'être apaisée dans ce pays.
C'est un peu l'héritage de Nelson Mandela, il faut le dire, qui est très critiqué en Afrique du Sud, et de Thabo Mbeki, qui a aussi été très critiqué pendant son passage au pouvoir, le successeur de Mandela. Et depuis que Jacob Zuma est président, depuis 2009, l'agitation sociale ne cesse d'augmenter. Dans les townships des zones rurales, comme dans les townships des grandes villes, on manifeste pour les services de base, l'eau, le logement, l'électricité, l'école publique, les manuels scolaires à l'école, la fin de la corruption à tous les niveaux dans les collectivités locales, l'accès aux soins, etc., etc., etc. Donc plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, puisque l'apartheid est mort en 91 officiellement, la base électorale du Congrès national africain au pouvoir se sent trahi. La révolution promise n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu. Pourquoi ? Parce que le virage a été pris très rapidement après l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir. En 1996, 2 ans après son élection, on abandonne le programme de reconstruction et de développement qui pouvait remettre le pays debout avec des grands chantiers de l'État, qui auraient pu employer des tas de gens qui étaient au chômage et former des nouvelles générations. Et on se tourne vers une politique néolibérale, archi-classique, qui donne carte blanche aux investisseurs blancs pour ne pas les effrayer, pour ne pas perdre la poule aux œufs d'or un petit peu. Donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de payer le prix d'un manque vraiment cruel de toute politique sociale. Il n'y a pas de redistribution des richesses. Et souvent, les Sud-Africains eux-mêmes disent « la seule vraie redistribution des richesses en Afrique du Sud, c'est la criminalité ».
On est passé de l'apartheid racial à l'apartheid social, mais est-ce que l'apartheid racial persiste ?
On peut dire que la vie n'est pas encore tout à fait normalisée, même si à Johannesburg, qui est une ville laboratoire qui a toujours beaucoup d'avance sur le reste du pays, l'apartheid est vraiment mort. Il y a tous les signes d'une nation intégrée. Mais dès qu'on voyage dans les campagnes, la barrière raciale, elle est exactement comme elle était il y a 25 ans, 50 ans. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Dans les fermes, il n'y a pas grand-chose qui a évolué, sauf dans les régions un peu progressistes du Cap, où certains fermiers favorisent le black empowerment et donnent des terres à leurs ouvriers agricoles pour leur permettre de lancer des crues. Mais tout ça reste assez marginal. Et je pense que du point de vue politique, la situation n'est pas non plus normalisée dans la mesure où l'ANC représente une force hégémonique qui gagne toujours plus des 2/3 des voix à chaque élection parce qu'elle représente tout simplement la majorité noire. Et de l'autre côté, le seul parti d'opposition réel qui existe pour l'instant, c'est l'Alliance démocratique qui représente la minorité blanche et la minorité métisse, pour schématiser bien sûr. Dans les grandes lignes, on a encore un paysage politique qui est très marqué par l'héritage de l'apartheid. Et ce qui tarde à se produire en Afrique du Sud aussi, c'est une sorte d'éclatement que tout le monde souhaite mais qui ne se produit pas de l'ANC, pour donner lieu à une vraie droite, à une vraie gauche et à débattre de manière plus saine de politique, c'est-à-dire de solutions pratiques pour sortir le pays de toutes ces montagnes de problèmes.
Mais comment les revendications sont organisées? On a eu des émeutes récentes, très violentes. Est-ce que c'est des révoltes sporadiques ou au contraire c'est organisé?
Les émeutes sont sporadiques dans les townships et ce qui s'est passé à Marikana lorsque 34 mineurs ont été massacrés par la police au mois d'août, c'était aussi un peu spontané et c'était un peu hors des clous des formes de mobilisation habituelles en Afrique du Sud, puisque c'était un nouveau syndicat alternatif concurrent du COSATU, du Congrès des syndicats sud-africains, qui est un allié historique de l'ANC, qui d'ailleurs fait partie d'une alliance tripartite au pouvoir. Ce syndicat alternatif qui s'appelle ACMU avait promis le triplement des salaires des mineurs de fonds chez Lonmin, une mine de platine qui se situe à Marikana, près de Rustenburg, à 100 km de Johannesburg. Donc c'était une revendication évidemment fantaisiste, enfin irréaliste, mais les mineurs étaient tellement en colère et tellement fatigués de négocier avec une direction très dure que tout a dégénéré au mois d'août. Avant le massacre, il y avait déjà eu des violences intersyndicales, des délégués syndicaux se sont fait tailler en pièces, il y avait des rivalités entre les syndicats qui se sont soldées par des morts, et deux policiers se sont aussi fait tailler en pièces par des mineurs. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait une tragédie. Sinon, ailleurs, les formes de mobilisation sociale ne sont plus celles de l'apartheid.
J'ai l'impression que ça reste un pays très violent. J'ai fait des reportages à l'époque, en 91, 92, c'était un pays extrêmement violent, l'Afrique du Sud.
La violence est multiforme en Afrique du Sud et elle vient d'une longue histoire, trois siècles de colonisation, des luttes, des guerres, la guerre anglo-boure, avant ça la guerre avec entre les Zoulous et les Xhosa, la guerre chez les Zoulous avec un grand mouvement dissident à l'intérieur de la nation Zoulou qui a formé le clan de Débélé, le Matabeleland, et toute cette population Zoulou qui habite au Swaziland et au sud du Zimbabwe aujourd'hui. Tout ça c'est une histoire de grande violence. La guerre anglo-boure, les premiers camps de concentration du monde moderne. C'était pendant la guerre entre les Afrikaners et les Anglais. Ensuite, le passage de l'ANC à la lutte armée et la répression massive, la répression mais institutionnelle. Il faut s'imaginer l'apartheid comme 50 ans de nazisme en France, si vous voulez. Et quelque chose de même pire, parce qu'on faisait exploser les opposants la nuit dans leur bicoque avec des bombes et les familles récupéraient des bouts de paupières sur le plafond, quoi. Et cette violence a laissé des séquelles extrêmement profondes. D'ailleurs, les Sud-Africains eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses à la violence qui les touche de plein fouet. Les gens s'interrogent sur les causes profondes du viol. On ne comprend pas, dans ce pays pacifié, pourquoi le viol reste aussi important. Pourquoi une femme sud-africaine sur trois est violée dans sa vie? Pourquoi un homme sur quatre admet avoir violé? Pourquoi un homme sur neuf admet avoir été violé? C'est un problème monstrueux que personne n'a commencé à aborder frontalement. C'est toujours indirect, c'est toujours un peu sous le tapis.
C'est important quand on pense que la place que l'Afrique du Sud occupe comme modèle en Afrique. On cite toujours l'Afrique du Sud comme la partie la plus développée, la plus moderne de l'Afrique.
Bien sûr, l'Afrique du Sud reste le modèle et, si vous voulez, le pays laboratoire de l'avenir du continent. Tous les pays d'Afrique sont très intéressés par ce qui se passe en Afrique du Sud parce que pour eux, cette démocratie est le fruit d'une histoire évidemment unique et très particulière qui n'est comparable à rien d'autre sur le reste du continent, mais une démocratie exemplaire avec un pays industrialisé où il y a une longue tradition de lutte syndicale, où vous avez l'ANC qui est le plus vieux parti politique du continent africain, fondé en 1912, où vous avez une presse indépendante qui a toujours eu l'habitude de contester les pouvoirs en place, un système judiciaire plus ou moins indépendant. Et donc des fondations très solides, plus solides que partout ailleurs, d'une vraie démocratie. Et la déception est évidemment aussi très intense pour le reste de l'Afrique quand on voit les dérapages de cette jeune démocratie sud-africaine qui avait tout pour réussir quelque part au départ et qui est en train de dilapider ses atouts.
Manini we matut, manini basabele dama. Kota bamcha
masopa
hula kanwa nkulunkulu
Sbezwile we matyot
Sbezwile we shabele lamay Kota bamcha
Masopa
Vula ganu ankulu
ngozu Masopa ntaka baba
Vula ganu ankulu ngozu
Masopa nganega baba
Vula ganu ankulu ngozu
Izono
Siyafunga Kuleli fangel Izono siyafunga Kuleli fangel Isono siyafunya Kuleli fangel Isono siyafunya
Amen
Amen, hallelujah Amen.
Alors, là c'est un dossier du diplôme de ce mois de mars sur l'Irak, parce que c'est le 10e anniversaire du début de cette guerre. Il y a un long papier sur où en est l'Irak aujourd'hui. Et puis, Jean-Pierre Serini revient sur cette guerre qui n'était absolument pas, nous disait-on à l'époque, en mars 2003, une guerre qui concernait le pétrole. C'était pas du tout ça. C'était évidemment, comme d'habitude, on avait des bonnes intentions. Et les bonnes intentions, elles étaient de débarrasser ces pauvres Irakiens de cet horrible monstre qu'était Saddam Hussein. Ce qui a été fait assez vite et inexplicablement, la guerre s'est prolongée et vous avancez un chiffre de l'ordre de 600 000 morts durant cette guerre. Mais ça, c'est un chiffre au bas mot.
C'est un chiffre qui comprend les pertes donc de la guerre proprement militaire entre les États-Unis et le régime irakien et en plus les pertes ensuite des guerres civiles et du terrorisme jusque, en gros, les années 2006. Ça a été établi par des Américains qui ont travaillé pour The Lancet et un institut de Baltimore qui est spécialisé dans le comptage macabre des pertes.
Là, vous nous dites, eh ben si, quand même, c'était une guerre pour le pétrole.
L'habillage officiel, c'était une guerre pour les armes de destruction massive, et en réalité, on a trouvé une guerre pétrolière. Alors là, il faut remonter un peu plus dans le temps. C'est vraiment une idée ancienne que l'idée de se débarrasser du régime irakien. En gros, c'est après la première guerre du Golfe, début des années 90, il y a eu toute une tentative sous le régime du président Clinton, président démocrate, d'un certain gradualisme pour se débarrasser de Saddam Hussein. Tout ça n'a pas réussi. Et en 98, les néoconservateurs américains ont établi une base électorale. On était 2 ans avant les présidentielles pour dire en gros, il faut avoir une totale autre vision du problème irakien. Il faut se débarrasser de Saddam Hussein et il faut que les majors, c'est-à-dire les compagnies pétrolières internationales, rentrent en Irak où elles étaient interdites depuis 1972. Et c'est cette inspiration qui a été reprise par Bush quand il a été élu président au début des années 2000. Et c'est ce qui a été mis en application en 2003. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une politique qui a été défendue par le Pentagone. C'est-à-dire que c'est les militaires qui ont incarné la politique pétrolière. Et donc, si vous voulez, vous aviez à la fois le glaive et le baril qui étaient ensemble pour mener une politique unique. Et les militaires avaient dans l'idée que, eh bien, on pourrait très vite avoir une production pétrolière qui soit, en gros, celle qu'elle était avant la guerre, et qu'ensuite, on pourrait faire rentrer les compagnies et que tout ça ne poserait aucun problème. Or, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Pourquoi ? Ben, il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, d'abord, les compagnies pétrolières internationales elles-mêmes étaient sur le reculoir. Pourquoi ? Parce que l'industrie pétrolière, c'est une industrie très lourde. Quand vous engagez, c'est pour 30 ou 40 ans. Vous faites des investissements très, très lourds. Et donc, s'installer en Irak, avec un pays dans lequel il n'y a pas de gouvernement, il y avait un gouvernement installé par les Américains, donc aucune légitimité juridique, et d'autre part, un pays en guerre. Donc c'était évidemment pour les compagnies quelque chose d'assez invraisemblable, et donc ils étaient plutôt d'une grande timidité. On a en particulier le témoignage du patron d'Exxon Mobil, qui est la principale société pétrolière internationale, et il disait en gros au vice-président Cheney, qui était son copain, il disait « Écoute, si tu peux me donner de la sécurité, j'irai. Tant que tu peux pas me donner de sécurité ni juridique ni militaire, j'attends. » Donc, c'était la première cause. Deuxième cause, ça a été qu'il y a eu une opposition sociale très forte. C'est-à-dire que l'histoire du pétrole en Irak, c'est une vieille histoire. On a fait ce pays sur la carte, les Anglais, pour en gros sécuriser le pétrole qui à l'époque était dans le nord à Mossoul. Et donc il y a eu une compagnie pétrolière internationale qui a été mise en place essentiellement par les Britanniques. Et cette compagnie, elle a eu un comportement de type colonial qui a déclenché, si vous voulez, une lutte des ouvriers du pétrole, inspiré d'ailleurs par les communistes. Le parti communiste irakien est né un peu dans l'industrie pétrolière. Et donc, il y avait une tradition syndicale et de lutte très importante. Et contre la politique américaine pétrolière, il y a eu ce premier obstacle qui était un obstacle social. Ensuite, il y a eu un deuxième obstacle qui a été qu'une fois qu'on a eu mis en place un régime légal, entre guillemets, il y avait un Parlement élu comme il l'a été, et ce Parlement devait adopter une nouvelle loi pétrolière. Donc on se retrouve aujourd'hui, si vous voulez, dans une situation un peu particulière, c'est que les compagnies pétrolières internationales sont bien revenues en Irak, mais elles sont revenues à des conditions qui ne leur plaisent pas. Les compagnies pétrolières ont besoin d'avoir dans leurs comptes des barils, c'est-à-dire des réserves. En gros, chaque fois que vous vendez un baril, vous devez faire rentrer un baril de réserve. C'est absolument nécessaire à Wall Street pour que vous puissiez être coté. Et donc, avec les contrats de service, on ne peut pas faire rentrer de baril puisque le baril appartient toujours à l'Irak. Donc ça apparaît comme un problème juridique. C'est en réalité un problème financier et boursier très important vu par les compagnies. Et le deuxième problème qui se pose, c'est bien évidemment qu'il n'est pas possible aux compagnies d'investir autant d'argent pour un rendement qui soit aussi faible.
À qui a profité cette guerre, finalement ?
La moitié de l'armée américaine était composée de gens qui étaient en réalité des privés qui travaillaient pour le compte du Pentagone. Donc je crois que c'est eux qui ont été les principaux bénéficiaires financiers de l'opération. On ne peut pas dire que les Républicains aient profité beaucoup de cette affaire irakienne, puisque Obama, dès qu'il est arrivé, a essayé de s'en débarrasser et finalement n'a même pas pu obtenir le minimum qui était recherché, qui était d'avoir une base militaire américaine permanente en Irak. Ils ont évacué complètement l'Irak.
Le temps de la tromperie et de la cruauté est maintenant terminé.
George W. Bush.
Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures.
20 mars 2003.
S'ils refusent de partir, une action militaire sera lancée au moment que nous choisirons. Tous les militaires et tous les civils devraient écouter attentivement cet avertissement. En cas de conflit, votre sort dépendra de vos actions. Ne détruisez pas les puits de pétrole, une source de richesse qui appartient au peuple irakien.
Simon Cooper s'est intéressé aux statistiques dans le football. J'avoue que c'est un sujet drôlement traité, avec humour, ce qui n'est pas si fréquent. Je ne veux pas être une mauvaise langue. Enfin, pour une fois, il y a de l'humour dans le diplôme. Et c'est un vrai régal, ce papier. Est-ce que vous pouvez nous en donner un goût, Simon Cooper ?
Oui, on est un peu au début d'une révolution statistique dans le foot qui vient des sports américains. Ils ont commencé dans le baseball il y a 20 ans. C'est l'utilisation des statistiques dans le cas de foot pour inspirer des transferts, pour trouver des joueurs qui sont sous-évalués ou pour préparer une stratégie de jeu pour le prochain match. Et d'ailleurs, c'est un phénomène presque inaperçu par les médias. Je vous donne un exemple. Il y a 9 ans, Arsène Wenger à Arsenal a dû chercher le nouveau Patrick Vieira. Vieira était la grande star d'Arsenal. Il était un peu vieux. Donc Wenger, qui est économiste, il a un diplôme d'économie de l'Université de Strasbourg. Il a regardé les statistiques de toutes les grandes ligues européennes. Il a trouvé un jeune joueur de l'Olympique Marseille, Mathieu Flamini, à l'époque très peu connu. Et il a vu que Flamini a couru 14 km par match, ce qui était exceptionnel. Mais les statistiques sont jamais assez. Il faut en ajouter le jugement humain. Donc, il faut voir, est-ce que Flamini court dans le bon sens ?
C'est une bonne question.
Est-ce qu'il peut jouer au foot ? Et donc, Wenger a dû aller à Marseille pour le regarder. Il a vu qu'il comprend bien le foot, il joue dans le bon sens, il court dans le bon sens. Et il a acheté Flamini pour très peu d'argent, et Flamini a bien joué à Arsenal les prochaines années. Donc, ça, c'est le début un peu de l'utilisation des statistiques pour trouver des joueurs. Et c'est ça qu'on fait de plus en plus, surtout dans le foot anglais et allemand, beaucoup moins ici en France. Mais ça va venir, j'en suis sûr.
Oui. C'est quel genre de statistiques ? C'est des statistiques sur les performances des joueurs, comme celles que vous venez de décrire sur la capacité de quelqu'un à courir.
Par exemple, combien d'interceptions fait-il ? Quelle est sa vitesse maximale ? Par exemple, Thierry Henry avait une vitesse maximale très, très, très haute. Et si Juventus avait su que cette statistique est très importante dans le foot, Juventus aurait jamais vendu Thierry Henry il y a 15 ans pour un prix trop bas à Arsenal. Donc si on comprend cette statistique de vitesse maximale, interception, des passes complétées dans les dernières tiers du terrain, donc il y a beaucoup de statistiques qu'on peut trouver, rechercher, utiliser.
Ça décide de la valeur d'un joueur. C'est-à-dire que si un joueur répond à toutes ses qualités, sa cote va monter ou descendre, selon le résultat des croisements des statistiques.
On peut, oui. À Manchester City, par exemple, le club très riche anglais, je crois qu'il y a 11 statisticiens qui travaillent tout le temps pour chercher des joueurs. Mais bon, on n'a pas besoin de statistiques pour voir que Lionel Messi est un grand joueur. On le voit. Mm-hmm. Mais dans les cas un peu plus gris, les statistiques peuvent aider. Par exemple, quand on regarde un match de Claude Makélélé, c'est difficile de voir qu'il est bon. Il ne fait pas des grandes passes, il ne marque pas des buts, il ne tacle même pas trop. Mais si on regarde quelques statistiques, il fait tout son travail quand l'opposition a le ballon. Donc si on regarde bien les statistiques, on voit que Makélélé, il est superbe. Et si Real Madrid aurait utilisé ces statistiques, on n'aurait jamais vendu Claude Makélélé.
Donc c'est scientifique.
Bon, on a vu dans les élections américaines, les dernières élections, les médias ont dit avant, c'est très difficile à savoir qui va gagner. Romney, Obama, c'est presque 50%. Et Nate Silver, statisticien qui vient du baseball, Nate Silver a commencé sa carrière dans le baseball. Il a écrit très bien dans le New York Times, si on utilise les statistiques, on voit que Obama a une chance de 90% à gagner. Donc c'est clair qu'Obama va gagner, a-t-il écrit pendant des semaines dans le New York Times. Mais les médias, nous les journalistes, ont écrit « ouais, c'est très difficile à savoir ce qui était faux ». Donc si on aurait utilisé les statistiques pour comprendre les élections, on aurait des articles très différents. Et c'est la même chose dans le foot. Si on utilise les statistiques, on voit des autres vérités.
Merci Simon Cooper, merci Maurice Lemoine, Serge Halimi, Sabrine Sessou, Jean-Pierre Serini. C'était l'équipe du Monde Diplomatique de ce mois-ci. Vous trouvez toutes les infos sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, ou bien aller sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. La technique aujourd'hui, Maxime Anna et Yann Bouillot. Cette émission a été réalisée par Franck Adhérer, Chloé Sanchez, et préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Nous reparlerons du dernier livre de Maurice Lemoine sur les eaux noires du fleuve prochainement. Et puis, n'oubliez surtout pas, demain à 14h, manif à partir du Châtelet jusqu'à l'Assemblée nationale, manifestation contre l'accord de sécurisation de l'emploi, contre l'ANI. Il est 16h et quelques secondes sur France Inter. On se retrouve peut-être demain à 15h. Pour là-bas, si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Raphaël Godet. Salut!
Des funérailles qui pourraient dégénérer à Port Saïd en Égypte. Des milliers de personnes assistent en ce moment aux funérailles des victimes de violences qui ont éclaté la nuit dernière dans la ville. 5 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées lors d'affrontements entre des habitants et les forces de l'ordre. En Syrie, les rebelles progressent. Ils ont pris le contrôle quasi total de la ville de Raqqa. On est là dans le nord du pays. Information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les cardinaux du monde entier sont tous au Vatican depuis ce matin. 200 cardinaux en tout. Ils doivent préparer le conclave qui servira à trouver un successeur à Benoît XVI. Il leur faut dresser en quelque sorte le portrait robot du futur pape. La première réunion en congrégation s'est tenue, je cite, « dans une atmosphère sereine et constructive ». Les cardinaux ont lu tous ensemble un serment qui les engage à tenir secret le contenu de leurs entretiens. Après Paris, c'est Berlin qui applaudit l'initiative des Suisses de mettre fin au parachute doré. Ce qu'a donné ce référendum l'homme est un résultat intéressant et cela mérite évidemment que l'on regarde vraiment à la loupe cet engagement pris par les Suisses. Voilà ce qu'a commenté le porte-parole du gouvernement fédéral. Jean-Marc Ayrault, de son côté, estime que cela est une excellente expérience démocratique et qu'il faut s'en inspirer. On en sait un peu plus sur ce crash de cet avion privé ce matin en Haute-Savoie, à Annemasse précisément. L'appareil a percuté le toit d'une maison avant de finir dans la cour d'une ferme. Il y a 2 morts et 1 blessé grave. Une députée socialiste devant la justice à Marseille, Sylvie Andrieux, est soupçonnée d'avoir fermé les yeux sur des détournements de fonds publics. On parle de 700 000 euros en tout, au profit d'individus pas toujours très fréquentables, disons, notamment dans les quartiers nord de la ville. On la connaissait jusque-là comme une commissaire de police qui apparaissait à la télé, parfois le soir sur une grande chaîne française. Julie Lescaut annonce qu'elle se lance dans la politique et cette fois ce ne sera pas de la fiction, ce sera pour de vrai. Véronique Geneste, qui avait déclenché un tollé l'an passé en se déclarant islamophobe, veut être candidate à la prochaine élection législative partielle pour représenter les Français de l'étranger à l'Assemblée. La comédienne de 56 ans se dit proche du centre droit. C'est ce qu'on appelle utiliser les grands moyens. 2 radars automatiques ont été arrachés près de Colmar ce week-end. Et les auteurs n'y sont pas allés de main morte puisqu'ils ont utilisé une pelle mécanique de chantier. Les 2 radars sont à l'heure actuelle hors service. Et puis la crise, quelle crise ? À Monaco, le prince Albert II vient de recevoir son nouveau jouet, un luxueux jet d'affaires tout neuf. L'appareil a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Nice. Son Altesse Sérénissime n'a pas voulu communiquer son prix. Selon les spécialistes, l'engin coûterait entre 40 et 50 millions d'euros. Cet appareil constitue pour moi un précieux outil dans l'accomplissement d'une mission de chef d'État. Voilà ce qu'a déclaré le prince Albert II.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements exceptionnels du jeu des 1000 euros en Hongrie, à l'Institut français de Budapest, à l'occasion du Festival de la Francophonie. Demain mardi à 19h et après-demain mercredi à 11h. Pour en savoir plus, franceinter.fr.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
16h05 sur Inter, la suite de votre après-midi, c'est Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Raphaël Godet, on vous retrouve à 17h.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Il nous a manqué, il faut aller vers lui. Mais qui ? Bah le soleil, oui, il paraît qu'il n'a jamais fait si sombre depuis des dizaines d'années, mais l'hiver va se terminer quand même. Et puis j'ai envie de vous proposer, moi, une émission tout à fait chaleureuse, ensoleillée en tout cas, avec des auteurs qui ont bien connu les pays où ils brillent le plus. Voici tout de suite Antonio Vivaldi et son 9e concerto pour violon et cordes. Je vous propose l'Allegro, interprété par Olivier Charlier, avec l'orchestre d'Auvergne. Mais oui, il y a du soleil aussi en Auvergne à ce moment-là, c'est ravissant, et même quand il fait mauvais, de toute façon. Thank you. Allegro du 9e concerto pour violon et cordes d'Antonio Vivaldi, interprété par Olivier Charlier avec l'orchestre d'Auvergne. Et c'est un très joli disque, aussi les 4 saisons. Et les 4 saisons du même Vivaldi ont été interprétées tout récemment. Le disque va sortir, l'enregistrement sera sur les étals, si j'ose dire, dans les bacs le 1er avril. Et ça n'est pas une blague, donc cette œuvre a été reprise par Richard Galliano, grand accordéoniste devant l'Éternel, qui en plus s'est adjoint les talents de grands musiciens comme Jean-Marc Philippe, Varja Bédian au violon, Jean-Marc Appap à l'alto, Éric Le Vionnois au violoncelle, Stéphane Logereau contrebasse, etc. Donc je vais les citer tous tout à l'heure. Et ben voilà, l'accordéon s'exprime, c'est un instrument à vent, c'est un instrument aussi à clavier, bien sûr, qu'il faut savoir manier, comme un pianiste manie avec attention. Les boutons ou les touches, ben il faut pas les rater, c'est assez petit. Et puis c'est un instrument de concert tout à fait, surtout sous les doigts de Richard Galliano. Voici le final du Printemps des 4 saisons.